De bonnes nouvelles en provenant d'Israël et du monde juif, mais pas seulement de bonnes nouvelles, également de la bonne musique et des invités. Et c'est tout de suite.
Bonjour et shalom à tous, et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Découverte. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, nous allons revenir sur l'histoire du soulèvement du ghetto de Varsovie qui a eu lieu le 19 avril 1943. Et sachez qu'un sobre monument en verre a été inauguré lundi à Varsovie en Pologne, le jour du 78e anniversaire de l'insurrection du ghetto de Varsovie, en hommage à Emmanuel Ringenblum et ceux qui l'ont aidé à rassembler des archives clandestines uniques, témoins de la vie et de la mort en ce lieu. Chers auditeurs, ne laissez jamais personne dire que les Juifs se sont laissés conduire comme des moutons à l'abattoir. C'est une insulte et en plus, ce n'est pas la vérité. Pour les 78 ans de l'insurrection du ghetto de Varsovie, nous allons rendre hommage aux 1 500 000 Juifs combattants de la Seconde Guerre mondiale. Je vous raconterai également l'histoire de Sarah Aronson, âgée de 27 ans, héroïne juive du Nili, ancêtre du Mossad. Elle est donc morte à 27 ans, en héroïne du Nili. On parle de plus en plus d'aide militaire israélienne au Maroc. Et puis le Maroc et Israël seront présents lors de la journée économique des Saouira qui se déroulera les 26 et 27 octobre 2021. Mais avant donc de développer toutes ces petites nouvelles, nous allons être fidèles à nos habitudes et démarrer avec de la musique, un très joli morceau de Georges Moustaki intitulé « Les mères juives » que je dédicace avec beaucoup d'amour à ma petite fille Sarah.
Mon fils, tu as mauvaise mine, tu devrais prendre soin de toi. N'oublie jamais les vitamines, couvre-toi bien quand il fait froid. Je sais que tu n'as plus 9 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont toujours sur le qui-vive. Les mères juives, je crois que tu fais trop de sport. On dit que ce n'est pas très sain, c'est dangereux, tous ces efforts. En as-tu réellement besoin? Je sais que tu n'as plus 15 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont inquiètes et émotives, les mères juives. Je t'ai acheté 2 cravates, tu as mis la bleue avec des pois quand tu es venu pour le Shabbat. Pourquoi l'autre, elle ne te plaît pas? Je sais que tu n'as plus 20 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont parfois très excessives, les mères juives. Dans ce manteau que j'ai fait pour toi, tu serais avocat ou docteur, tu aimes mieux faire le chanteur et me quitter pendant des mois. Je sais que tu n'as plus 30 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont douces et attentives, les mères juives. Ta femme, c'est presque une gamine, comment peut-elle veiller sur toi? Elle sait même pas faire la cuisine. Heureusement, je suis là. Je sais, tu n'as plus 40 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles peuvent être possessives, les mères juives. Tandis que moi, je te connais, je fais les plats que tu préfères, je te tricote des cache-nez. des paires de gants, des pull-overs. Je sais, tu n'as plus 50 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont vraiment très actives, les mères. Ne crains rien, je ne pleure pas, même quand tu ne m'appelles pas. Je fais celle à qui ça ne fait rien. Je sais, tu n'as plus 60 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont très tendres et naïves, l'énergie. Quand ma petite mère parlait ainsi, ça me semblait insupportable. Depuis que son absence m'accable, je rêve d'entendre chaque nuit. Je sais, tu as 70 ans, mais tu es encore mon enfant. Elle était pure comme l'eau vive, ma mère juive.
Georges Moustaki. Un sobre monument en verre a été inauguré lundi à Varsovie en Pologne, le jour du 78e anniversaire de l'insurrection du ghetto de Varsovie, en hommage à Emmanuel Ringenblum et ceux qui l'ont aidé à rassembler des archives clandestines uniques, témoins de la vie et de la mort en ce lieu. L'historien Emmanuel Ringelblum, à la tête d'une petite équipe prisonnière du ghetto, avait recueilli en toute clandestinité dès 1940 les archives relatant la survie et les combats des quelques 480 000 personnes enfermées par les nazis. Ces archives sont une capsule de temps, un message d'espoir de ceux qui les ont cachées pour les générations à venir. C'est ce que dit le créateur du monument, Lukasz Mieszkowski, que ce trésor verra des jours meilleurs et qu'il sera jugé à sa juste valeur. En surface, un simple cube en verre posé au milieu d'un petit square désigne l'endroit où avait été enfouie la première partie des archives Ringelblum en 1942. Il laisse entrevoir en fait une petite cave en béton symbolisant celle qui a abrité ce trésor inestimable de la mémoire de l'humanité, inscrit d'ailleurs au patrimoine de l'UNESCO, et un puits noir dont nous ne pûmes transpercer par nos cris et nos hurlements. Nous l'avons enfoui sous terre avec quelques dizaines d'autres personnes. Monsieur David Grimbert, qui avait 19 ans à l'époque, faisait partie du groupe réuni par Emmanuel Ringelblum. Leur équipe, qui avait pris le nom d'Onek Shabbos, plaisir du Shabbat, rassemblait aussi bien documents officiels que journaux clandestins, bons de rationnement, cartes postales, ordonnances médicales, programmes de spectacle, textes littéraires, tracts publicitaires ou encore emballages de bonbons. Puis avec le début de l'extermination totale des Juifs par les Allemands et la fin du ghetto, elle a dressé des statistiques des morts, morts de faim, de maladies, tués par les Allemands, ainsi que des témoignages de ceux qui ont vu l'horreur. Les archives Ringelblum sont uniques au monde. Elles contiennent 30 000 documents témoignant de la vie dans le ghetto de Varsovie, rassemblés de façon absolument professionnelle. C'est ce qu'a souligné Piotr Wilczyński de l'Association de l'Institut historique juif de Varsovie. Mis sur pied dès le mois d'octobre 1939, les ghettos étaient des quartiers isolés par des barbelés ou un mur dans lesquels les nazis forcèrent la population juive à vivre dans des conditions tout à fait misérables. Au sein des ghettos, des conseils juifs sont mis en place à l'initiative des nazis et un lent processus d'annihilation prend forme sous la coupe des nazis. Le premier ghetto est mis en place le 8 octobre 1939 à Piotrków en Pologne. Dès la fin de l'année 1939, sous le commandement de Hans Frank, les Juifs sont donc rassemblés et entassés dans un quartier de la ville clôturé de hauts murs et soumis au couvre-feu de 19 à 7 heures du matin. Il s'agit officiellement d'enrayer le typhus et d'éradiquer le marché noir juif. Officieusement, en mettant en œuvre la politique vétérinaire du Troisième Reich, le ghetto doit faire jouer la sélection naturelle par la faim, l'épuisement ou encore l'épidémie. Le ghetto de Piotrków est suivi par ceux de Lodz, de Varsovie, de Cracovie, de Lublin et de Lwów. Depuis l'intérieur du ghetto, les contacts avec l'extérieur sont extrêmement limités, tandis que les Allemands sont omniprésents par le biais de la Gestapo et de la Kripo, la police criminelle. Les Allemands y ordonnent le recensement de la population juive et établissent un fichier statistique qui deviendra un outil majeur de la persécution et de la spoliation. À partir du 1er décembre 1939, sur ordre de Hans Frank, tous les Juifs âgés de plus de 10 ans, 12 à Varsovie, doivent arborer sur la manche droite de leurs vêtements un brassard où doit figurer une étoile de David. Le port de cet insigne a pour objectif d'isoler la population juive et de créer par un marquage vestimentaire un ghetto psychique. D'autres mesures sont prises en 1939 et 40 visant à isoler davantage, à brimer, humilier afin d'empêcher toute velléité de résistance. Couvre-feu, interdiction de voyager en chemin de fer, confiscation des postes de radio, interruption fréquente de la distribution du courrier. La Pologne d'avant-guerre comptait près d'un millier de communautés juives organisées. Pardon. Les petites communautés sont dissoutes et regroupées avec violence dans les ghettos des villes principales. Moins d'un an après l'entrée des Allemands en Pologne, la quasi-totalité des Juifs sont parqués dans les ghettos. Les conseils juifs, les fameux conseils juifs, sont mis en place à l'initiative des nazis par le décret du 28 novembre 1939. Leur but est de faire prendre en charge par la communauté juive l'essentiel des tâches administratives et bureaucratiques conduisant à son anéantissement. Recensement, spoliation, déportation. Par le biais du conseil qui leur est imposé, les Juifs prennent en main leur propre persécution, en pensant toujours qu'en acceptant celle-ci, ils éviteraient pire encore. Une communauté de 10 000 personnes doit avoir un conseil de 12 membres et de 24 membres si son effectif est supérieur. Le conseil est soit nommé directement par les Allemands, soit organisé à l'intérieur de la communauté par ses chefs traditionnels laïcs et religieux. Devenu de facto une administration municipale, le conseil juif assure la distribution des cartes de rationnement, la répartition de la nourriture dans les cantines populaires, l'affectation des logements, la perception des impôts, la gestion des écoles, l'organisation des soins médicaux, du travail intérieur et extérieur, sous la coupe des Allemands dans tous ces domaines. L'entassement est délibéré. À Lodz, deuxième plus grand ghetto de Pologne, constitué dans les premiers mois de l'occupation, 100 000 juifs sont transférés en quelques semaines dans un quartier de taudis, là où 62 000 juifs s'entassaient déjà avant la guerre. La densité d'occupation des logements se monte alors à 6 personnes par pièce. L'entassement, la faim et les épidémies produisent les effets escomptés. L'Allemagne nazie maintient les élites juives en vie, car jusqu'au dernier moment, elle a besoin des instances communautaires pour encadrer une population tout entière destinée à l'anéantissement physique. Les conseils juifs sont généralement haïs par la population. En dépit des ravages opérés par un processus d'annihilation lente par privation des moyens d'existence, les ghettos connaissent généralement une vie culturelle intense. À Vilno, Lodz ou encore à Varsovie, par exemple, des théâtres fonctionnent. Mais la faim opère un travail de sape qui brise la population. À Lodz, les travailleurs reçoivent 65% de la ration calorique minimum, les autres encore moins. À Vilno, ils perçoivent moins de 600 calories par jour. De mai 1940 à août 1944, 40 000 personnes meurent des seuls effets de la faim dans les ghettos de Lodz, où des émeutes avaient d'ailleurs éclaté en août 1940 et en janvier 1941, quand la population avait encore la force morale et physique de se rebeller. À cela s'ajoute la saleté ambiante, la gale est omniprésente, les invasions de puces, de rats et de poux, mais aussi les poussées de fièvre typhoïde, de fièvre éruptive et bien sûr de dysenterie. On note aussi une épidémie de tuberculose, les fausses couches sont nombreuses, dans les ghettos les grossesses sont autorisées. À Vilno et Cracovie, les Allemands, sous menace de mort, interdisent d'ailleurs toute grossesse. En 2013, à Paris, le Mémorial de la Shoah organisait une exposition intitulée « Regards sur les ghettos » et dédiée à la photographie des ghettos, l'occasion de revenir sur l'ambiguïté du contexte de prise de vue et sur la personnalité des auteurs amateurs ou professionnels, clandestins ou de propagande. L'exposition présentait près de 500 photographies peu connues des ghettos dans les territoires annexés à l'Est. L'idée de séparer totalement les Juifs du reste de la société et de les regrouper dans des quartiers spéciaux s'impose aux nazis et des centaines de ghettos sont progressivement mis en place. Et curieusement, ces lieux d'exaction ont été immortalisés par des centaines de clichés conservés aujourd'hui dans des centres d'archives ou chez des collectionneurs privés. Que nous donnent à voir ces images? Quelle est leur fonction? Propagande, témoignage, dénonciation? Les réponses sont en partie données par le contexte de leur réalisation, par la lecture des scènes représentées et bien sûr par leurs auteurs. Des unités de propagande nazies ont ainsi photographié les ghettos pour les besoins de campagnes antisémites. Des soldats allemands ont aussi pris des clichés. Enfin, plusieurs photographes juifs ont, en dépit de l'interdiction, continué à prendre des photos de leur propre destruction tout au long des années de l'occupation nazie. Alors, pour les 78 ans de l'insurrection du ghetto de Varsovie, on va rendre hommage aux 1 500 000 juifs combattants de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pour ça que je vous ai dit en début d'émission, ne laissez jamais personne dire que les juifs se sont laissés conduire comme des moutons à l'abattoir. C'est une insulte et en plus, ce n'est pas la vérité. En cette aube du 19 avril 1943, le peuple juif est debout. Les juifs combattants, tous les juifs du ghetto de Varsovie encore vivants, se battent seuls, armes à la main. À la stupeur du monde qui les a oubliés, qui les a ignorés, ils vont tenir tête avec seulement quelques armes de poing à la plus puissante armée du monde pendant 3 longues semaines. Comme Arié Wilner, un des dirigeants de la révolte, le déclara, « Nous ne voulons pas sauver nos vies. » Personne n'en sortira vivant, nous désirons sauver notre dignité d'homme. » Fin de citation. Et le grand poète et résistant lituanien Abba Kovner constate « Pour le peuple, pour les millions de juifs sur la botte allemande, il n'y a pas de salut, on ne peut que sauver l'honneur de notre peuple. » Cette insurrection désespérée devint le symbole de la résistance juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais cette insurrection unique par son ampleur et son retentissement ne doit pas faire oublier tous les actes de résistance des juifs combattants individuellement ou collectivement contre le fascisme et le nazisme de 1933 à 1945. Les juifs s'engagèrent en masse dans les brigades internationales pour sauver du fascisme la jeune République espagnole. À la déclaration de guerre, les juifs étrangers en France se portent volontaires en masse au sein des armées françaises. 26 000 volontaires juifs étrangers sur 46 000 volontaires s'enrôlent dans l'armée française à l'automne 1939. Ils combattent avec une exceptionnelle vaillance dans la Somme et en Norvège. Les Français juifs rejoignirent tous les régiments et s'illustrèrent. Ainsi, le lieutenant Pierre Heilbronn, héros 5 fois décoré de la Première Guerre mondiale, tomba comme volontaire à 45 ans à la tête de sa compagnie au champ d'honneur en défendant la Seine au pont des Andelys. C'était le 9 juin 1940. Les Juifs de Palestine s'engagent eux aussi en masse dans l'armée britannique. Ils seront près de 40 000 à combattre sous l'uniforme britannique et pour certains au sein de la brigade juive de Palestine, ils se battront avec un extrême courage. Au Liban, en Syrie, à Chypre, en Libye, en Érythrée, en Éthiopie, en Somalie et partout en Europe, mais surtout leur héroïsme sera déterminant pour arrêter les troupes de Rommel à El Alamein. 1,5 million de juifs français, anglais, américains, russes, polonais, belges, hollandais, canadiens, australiens et tant d'autres nationalités se sont battus sous les uniformes de leur armée respective. Près de 500 000 juifs russes se battront ainsi de 1941 à 1945. 300 d'entre eux seront d'ailleurs généraux. Le plus illustre, le général Liakov Kreiser, a été le premier général russe à avoir été fait héros de l'Union soviétique et joua d'ailleurs un rôle décisif dans les batailles de Smolensk et de Stalingrad. En Pologne occupée, les Juifs multiplièrent les révoltes et les actions armées. Il y eut des insurrections à Częstochowa, à Bialystok, à Bedzin, à Wilno, à Cracovie. Des jeunes Juifs de Częstochowa se dressèrent contre les Allemands, mais leurs pistolets ne tirant pas, se jetèrent sur leurs ennemis à main nue et furent massacrés. C'est ce que rapporta Isaac Zuckerman, dit Antek, un des chefs des combattants du ghetto de Varsovie. Les Juifs se soulevèrent aussi dans les camps de la mort. En août 1943, par exemple, à Treblinka. En octobre 1944, à Birkenau. Mais surtout, en octobre 1943, à Sobibor. Seule révolte réussie d'un camp. D'ailleurs, le cinéaste Claude Lanzmann en a fait un film intitulé « Le 14 octobre 1943 ». En France, individuellement ou collectivement, les Juifs ont été au premier rang de la résistance, dans les forces françaises libres, avec quelques marins bretons, quelques aristocrates. Ils furent souvent les premiers à rejoindre le général de Gaulle. Et j'en citerai quelques-uns illustres. René Cassin, Pierre Mendès France, Romain Gary, Joseph Kessel, Jean-Pierre Bloch, Jean-Louis Crémieux, Raymond Aron, Pierre Dac et tant d'autres. Plus de 7% des compagnons de la Libération étaient d'origine juive. Et le premier Français à avoir été décoré dans cet ordre fut le sous-lieutenant Robert Weil. Après leur guerre héroïque, certains s'illustrèrent. François Jacob, qui eut le prix Nobel, José Aboulker, Pierre-Louis Dreyfus, Jean Rosenthal ou René Cassin, qui reçut le prix Nobel. Dans la résistance nationale intérieure, il y eut de nombreux chefs de réseau juifs, comme Jean-Pierre Lévy, fondateur et dirigeant de Franc-Tireur, le grand historien Marc Bloch, chef pour la région lyonnaise des MUR, ou les fondateurs du réseau du Musée de l'Homme, un des premiers réseaux de résistance, Boris Vildé et Anatole Levitsky. Raymond Aubrac, l'époux de Lucie Aubrac, dont on fit un film également, Lucie Aubrac, de son vrai nom Samuel, était un des dirigeants clés de la Libération Sud. Grâce à Serge Klarsfeld, nous savons que 17% des résistants et opposants fusillés au Mont Valérien étaient juifs. D'autres exemples encore du rôle crucial des Juifs dans l'action armée. Sur les 300 Français d'Algérie dirigés par José Aboulker qui permirent le débarquement anglo-américain en novembre 1942, parmi eux, 90% d'entre eux, oui 90% étaient Juifs. À la tête des mouvements politiques de la résistance, nombreux étaient les Juifs. Daniel Mayer dirigeait le Parti socialiste clandestin. Maurice Kriegel-Valrimont représentait les communistes au sein des mouvements unis de la résistance. Sans oublier ces grands hommes, acteurs et symboles de la résistance morale et politique, Pierre Massé, ancien ministre de Clémenceau, Victor Bache, président de la Ligue des droits de l'homme, Jean Zay, Georges Mandel et Léon Blum, tous anciens ministres, seul Léon Blum échappera aux assassins. Et puis, il y eut, comme dans de nombreux pays occupés, une vraie résistance juive organisée. 5 grandes organisations juives se sont illustrées. L'Organisation juive de combat, les éclaireurs israélites de France, le mouvement de la jeunesse sioniste, l'œuvre de secours aux enfants et l'aumônerie du consistoire central qui, ensemble, ont sauvé plus de 10 000 enfants juifs. L'armée juive de Jacques Lazarus fut précurseur dans le combat armé dès janvier 1942. Les résistants de la 6e des éclaireurs israélites, dirigés par Robert Gamzon, crièrent leur propre marquis dans le Tarn, entre Vabre et la Cône, et participèrent, comme les combattants du mouvement de la jeunesse sioniste, au combat pour la libération de la France, et ceci jusqu'en Allemagne. En France comme en Pologne, la résistance juive comprenait aussi des historiens qui cherchaient à préserver les traces du crime. À Varsovie, en Pologne, le grand historien Emmanuel Ringelblum a constitué, je vous l'ai dit, une équipe pour rassembler un fonds d'archives et de témoignages enterrés profondément dans le ghetto. Ces archives uniques, ces mémoires du ghetto, de la vie, des combats et de la mort, furent retrouvées en 1946 en France, dès avril 1943, alors que le ghetto s'insurge. Isaac Schneerson, le fondateur du Mémorial de la Shoah, fonde dans un même élan de volonté, de témoignage, le CDJC, le Centre de documentation juive contemporaine, dont toutes les archives se trouvent depuis 1955 au Mémorial de la Shoah. À Paris, les Juifs ont ainsi résisté partout en Europe, en Afrique du Nord et aussi au Moyen-Orient.
11 novembre 1975. Hier, j'étais dans le métro et j'entends deux dames dire « T'as vu encore ces Juifs avec leurs histoires à l'ONU ?» Quels emmerdeurs. C'est vrai, nous sommes des emmerdeurs. Ça fait des siècles qu'on emmerde le monde. C'est dans notre nature, que voulez-vous ? Abraham, avec son Dieu unique, Moïse avec ses tables de la loi, Jésus avec son autre joue toujours prête à la deuxième baffe, puis Freud, Marx, Einstein, tous ont été des gêneurs, des révolutionnaires, des ennemis de l'ordre. Pourquoi ? Parce qu'aucun ordre, quel que fût le siècle, ne pouvait les satisfaire, puisqu'ils en étaient toujours exclus. Remettre en question, voir plus loin, changer le monde pour changer de destin, tel fut le destin de mes ancêtres. C'est pourquoi ils sont haïs par les défenseurs de tous les ordres établis. L'antisémite de droite reproche aux juifs d'avoir fait la révolution bolchévique. C'est vrai, il y en avait beaucoup, en 1917. L'antisémite de gauche reproche aux juifs d'être les propriétaires de Manhattan. C'est vrai, il y a beaucoup de capitalistes juifs. La raison est simple. La religion, la culture, l'idéal révolutionnaire d'un côté, les portefeuilles et les banques de l'autre sont les seules valeurs transportables, les seules patries possibles pour ceux qui n'ont pas de patrie. Et maintenant qu'il en existe une, l'antisémitisme renaît de ses cendres, pardon, de nos cendres, et s'appelle antisionisme. Il s'appliquait aux individus, il s'applique à une nation. Israël est un ghetto, Jérusalem c'est Varsovie. Les nazis qui nous assiègent parlent arabe, et si leur croissant se déguise parfois en faucille, c'est pour mieux piéger les gauches du monde entier. Moi qui suis un juif de gauche, je n'en ai rien à faire d'une certaine gauche qui veut libérer tous les hommes du monde aux dépens de certains d'entre eux, car je suis précisément de ceux-là. D'accord pour la lutte des classes, mais aussi pour le droit à la différence. Si la gauche veut me compter parmi les siens, elle ne peut pas faire l'économie de mon problème. Et mon problème est que depuis les déportations romaines du 1er siècle après Jésus-Christ, nous avons été partout honnis, bannis, traqués, dénoncés, écrasés, spoliés, brûlés et convertis de force. Pourquoi ? Parce que notre religion, c'est-à-dire notre culture, était dangereuse. Eh oui. Quelques exemples ? Le judaïsme a été le premier à créer le Shabbat, jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour de repos hebdomadaire obligatoire. Vous imaginez la joie des pharaons, toujours en retard d'une pyramide. Le judaïsme interdit l'esclavage. Vous imaginez la sympathie des Romains, les plus importants grossistes de main-d'œuvre gratuite de l'Antiquité. Il est dit dans la Bible, « La terre n'appartient pas à l'homme, mais à Dieu ». De cette phrase découle une loi, celle de la remise en question automatique de la propriété foncière tous les 49 ans. Vous voyez l'effet d'une loi pareille sur les papes du Moyen-Âge et les bâtisseurs d'empire de la Renaissance. Il ne fallait pas que les peuples sachent. On commença par interdire la Bible. Puis ce furent les médisances. Des murs de calomnie qui devinrent murs de pierre et qu'on appela ghetto. Ensuite ce fut l'Inquisition, les bûchers et plus tard les étoiles jaunes. Auschwitz n'est qu'un exemple industriel de génocide, mais il y a eu des génocides artisanaux par milliers. J'en aurai pour 3 jours, rien qu'à nommer tous les pogroms d'Espagne, de Russie, de Pologne et d'Afrique du Nord. À force de fuir, de bouger, le juif est allé partout. On extrapole et voilà, il naît de nulle part. Nous sommes parmi les peuples comme l'enfant à l'assistance publique. Je ne veux plus être adopté. Je ne veux plus que ma vie dépende de l'humeur de mes propriétaires. Je ne veux plus être un citoyen locataire. J'en ai assez de frapper aux portes de l'histoire et d'attendre qu'on me dise « entrez ». Je rentre et je gueule. Je suis chez moi sur terre. Et sur terre, j'ai ma terre. Elle m'a été promise, elle sera maintenue. Qu'est-ce que le sionisme ? Ça se réduit à une simple phrase. L'an prochain à Jérusalem. Non, ça n'est pas un slogan du club méditerranéen. C'est écrit dans la Bible, le livre le plus vendu et le plus mal lu du monde. Et cette prière est devenue un cri qui a plus de 2000 ans. Et le père de Christophe Colomb, de Kafka, de Proust, de Chagall, de Marx, d'Einstein et même de Monsieur Kissinger l'ont répété, cette phrase, ce cri, au moins une fois par an, le jour de Pâques. Alors, le sionisme c'est du racisme ? Faites-moi rire. Est-ce que douce France, cher pays de mon enfance, est un hymne raciste ? Le sionisme, c'est le nom d'un combat de libération. Dans le monde, chacun a ses juifs. Les Français ont les leurs. Ce sont les Bretons, les Occitans, les Corses, les travailleurs immigrés. Les Italiens ont les Siciliens, les Yankees ont leurs Noirs, les Espagnols leurs Basques. Nous, nous sommes les Juifs de tous. À ceux qui me disent « Et les Palestiniens ?» Je réponds « Je suis un Palestinien d'il y a 2000 ans. Je suis l'opprimé le plus vieux du monde. Je discuterai avec eux, mais je ne leur céderai pas ma place. » Il y a là-bas de la place pour 2 peuples et 2 nations. Les frontières sont à déterminer ensemble. Mais l'existence d'un pays ne peut en aucun cas exclure l'existence de l'autre. Et les options politiques d'un gouvernement n'ont jamais remis en cause l'existence d'une nation, quelle qu'elle soit. Alors pourquoi Israël ? Quand Israël sera hors de danger, je choisirai parmi les juifs et mes voisins arabes ceux qui me sont frères par les idées. Aujourd'hui, je me dois d'être solidaire avec tous les miens, même ceux que je déteste, au nom de cet ennemi insurmontable, le racisme. Descartes avait tort. Je pense donc je suis, ça ne veut rien dire. Nous, ça fait 5000 ans qu'on pense, et nous n'existons toujours pas. Je me défends, donc je suis.
Très beau texte écrit, je pense, il y a environ 30 ans par Herbert Pagani et toujours d'actualité, plaidoyer pour ma terre. Sachez que les ministres de la Santé d'Israël et des Émirats Arabes Unis, respectivement Yuli Edelstein et Abdulrahman bin Mohammed Al-Owais, signeront mercredi un accord de coopération entre les deux pays dans le domaine de la santé. Par ailleurs, les négociations avancent favorablement sur un accord concernant le fameux passeport vert entre Israël, les Émirats et le Bahreïn. Le seul obstacle réside encore dans l'hésitation israélienne à reconnaître le vaccin chinois qui est administré dans les Émirats. Enfin, le ministre émirati des Affaires étrangères, le cher Abdullah bin Zayed Al-Nahyan, a rencontré l'émissaire spécial israélien pour les pays du Golfe, Tzvi Hefetz, et ensemble, ils ont évoqué le développement des relations entre les deux pays depuis la signature des accords d'Abraham. Ils ont donc convenu de renforcer la coopération entre Israël et les Émirats dans toute une série de domaines. Merci à Sarit Haddad. Sachez qu'un gigantesque contrat a été signé entre les ministères israéliens et grecs de la défense, le plus grand jamais signé entre les deux pays. Le montant estimé est à 1,65 milliard de dollars. Et dans le cadre de ce contrat, le ministère israélien de la défense va construire sur le territoire grec un centre international d'entraînement pour l'armée de l'air grecque avec la coopération de la compagnie Elbit Systems Limited. Cette dernière fournira notamment les derniers modèles d'avions d'entraînement T6 et M436, tous les systèmes avioniques ultramodernes qui équipent les appareils israéliens, ainsi que les systèmes de simulation et de contrôle. Dans un stade ultérieur, une coopération se fera entre les écoles israéliennes et grecques de pilotage. Le gouvernement grec a pris une décision stratégique de perfectionner ses capacités militaires face à l'agressivité croissante de son voisin, la Turquie, d'Erdogan, qui agit comme bon lui semble en Méditerranée orientale. Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, s'est félicité de cet accord qui repose sur l'excellence des industries militaires israéliennes ainsi que sur les solides relations d'amitié et de coopération entre les armées israéliennes et grecques depuis de nombreuses années. Il a d'ailleurs remercié son homologue grec qui a favorisé ce contrat qui a été signé en fin de semaine dernière lors d'une rencontre tripartite sur l'île de Chypre. Et le PDG d'Elbit Systems, Betzalel Machlis, a exprimé sa fierté après la signature d'un tel contrat qui témoigne, je cite, du leadership mondial de la compagnie israélienne dans les solutions d'entraînement des pilotes et la fourniture de technologies qui assurent à la fois une supériorité opérationnelle et une baisse des coûts. Et vous aurez peut-être reconnu Boa Sharabi avec cette chanson « Atli Laila ». Une scène qui était encore inimaginable il y a peu de temps, une aide militaire ouverte d'Israël au Maroc. Des observateurs militaires ont noté que la guerre qui oppose depuis des décennies l'armée marocaine au front Polisario vient de changer d'allure avec pour la première fois l'utilisation de drones par l'armée marocaine. Cette dernière a donc réussi à repousser une attaque sahraouite contre la muraille de sable édifiée par le Maroc sur les 1000 km qui séparent le royaume chérifien des territoires tenus par le front Polisario. Lors de cette offensive, le commandant de la police nationale Sahraoui a été tué par un drone. Ces experts ainsi que des sources algériennes qui soutiennent les indépendantistes affirment que ce sont des techniciens israéliens qui ont actionné ces drones, dont celui qui a visé Bandir. Sur le plan officiel, le Maroc a toutefois démenti cette information. Par ailleurs, le Maroc et Israël seront présents lors de la journée économique des Saouira qui se déroulera les 26 et 27 octobre de cette année. La Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc est l'hôte de cet événement. Nous voulons associer les opérateurs français et marocains, mais également israéliens, a précisé donc un responsable marocain, le directeur des relations institutionnelles de la CFCIM. Cet événement sera aussi l'occasion de mettre en avant les possibilités d'investissement qu'offre la province des Saouira. Et M. André Azoulay, président d'honneur de la fondation Essaouira Mogador, Mogador était l'ancien nom de Essaouira, conseiller de Sa Majesté le roi Mohamed VI, a rappelé qu'Essaouira, ce qui permet à la ville de prétendre à développer son activité économique dans le futur proche. Essaouira est l'un des noms marocains auxquels on associe le plus ce qui manque le plus dans le monde, à la fois cette qualité dans l'art de vivre ensemble et la culture de la diversité, a encore expliqué le président d'honneur de la fondation d'Essaouira, Mogador, ajoutant par ailleurs qu'il y a un peu plus d'un siècle, la moitié des flux économiques que le Maroc générait passait par Essaouira. Flux financiers, flux commerciaux et flux transactionnels de toute nature. Enfin, au niveau de son environnement, la province dispose d'un écosystème et d'une écologie qui l'inscrit dans la dynamique des industries du futur.
זיו השדה שאספנו אז אור הארץ נושאת יבולה ואור יפים הם הלילות בכנען תרם השמש עולה עוד רכבת חוצה שם פרדס ירוק חסידה עוד רוגעת מעל ועוד ניסה הערפל כאל וגם אחורה, ההיא עוד מהר, כל האור עולה,
זמן אני מרבטי העיר זה היה מלטף את החול ועוד נשמע איך מלבבות אוהב לו סמר ישן שעזבנו אז אור הארץ נושאת יפולה ואור יפים הם מלאות בבנן דרם השמש עבר
Avi Toledano avec Hora qui a obtenu le grand prix de l'Eurovision il y a déjà quelques années. L'indépendance d'Israël a été acquise grâce à de nombreux héros juifs souvent méconnus. C'est par un pur hasard, en visitant les caves réputées de Zichron Yaakov au nord du pays, que nous avons découvert l'histoire oubliée de Sarah Aaronson, morte à 27 ans, en héroïne du Nili, l'ancêtre du Mossad. La ville faisait partie de la Syrie ottomane lorsque la Turquie entra en guerre en 1914 aux côtés de l'Allemagne. Les Juifs de Palestine s'étaient alors trouvés dans une situation critique. Les parents de Sarah, sionistes de Roumanie venus en Palestine ottomane, en même temps que les pionniers de la première alia, avait fondé le moshav où naquit Sarah Aaronson. Encouragée par son frère Aaron, elle avait étudié les langues et parlait couramment l'hébreu, le yiddish, le turc et le français, maîtrisait bien l'arabe et enseignait l'anglais. Elle avait épousé Chaim Abraham, un négociant plus âgé et riche de Bulgarie, et a vécu brièvement avec lui à Istanbul. Mais le mariage étant malheureux, elle décida de rentrer chez elle à Zichron Yaakov en décembre 1915. Sur son chemin d'Istanbul à Haïfa, elle a d'ailleurs été témoin d'une partie du génocide arménien. Elle décida donc d'aider les forces britanniques à la suite de ce qu'elle avait vu. Les sujets ottomans juifs ont été enrôlés de force dans l'armée turque, tandis que les juifs d'origine russe, anciens sujets du tsar, furent internés ou expulsés vers la Russie. Ils ont été soumis à la main dicte Jamal Pacha, gouverneur militaire syro-palestinien connu pour sa cruauté envers les non-musulmans. Ainsi, il fit arrêter le 17 décembre 1914 750 juifs de Tel Aviv, hommes, femmes et enfants, pour être internés en Égypte dans des conditions effroyables. David Ben-Gourion et quelques amis arrivèrent à s'enfuir vers les États-Unis, mais les juifs du Yishuv furent pris au piège. C'est donc pour rater la victoire de la Grande-Bretagne sur la Turquie qu'en 1915, un groupe d'amis de Zichron Yaakov décidèrent de fonder un réseau d'espionnage appelé le Nili, acronyme de Netzach Israel Lo Yizacher. La providence d'Israël ne sera pas vaine. Vous pouvez trouver cette phrase dans le livre de Samuel. Donc le Nili était le précurseur du Mossad. Les principaux membres de ce réseau furent Aaron Aaronson et sa sœur Sarah, Avshalom Weinberg, Yosef Lishansky et Naaman Belkin. Weinberg noua un premier contact avec les Anglais en se glissant dans le dernier navire américain qui avait pu accoster au port de Haïfa. En débarquant en Égypte, l'état-major anglais n'avait pas daigné donner suite. Aaron Aaronson décida donc d'agir en usant de son statut d'agronome respecté par les Turcs parce qu'il avait découvert sur le mont Hermon une variété de blé sauvage extrêmement résistant aux parasites. Le gouvernement turc l'autorisa donc à voyager pour donner des conférences à Berlin, ce qui lui permit de contacter les sionistes allemands. Grâce à eux, il obtint un passage clandestin pour la Grande-Bretagne. Si Scotland Yard n'appréciait pas l'aventurier levantin, le ministère de la Guerre l'intéressait et lui octroya un sauf-conduit pour l'Égypte. Il prit donc contact en décembre 1916 avec le renseignement britannique en Égypte. Mais comme Aaron n'avait pas donné de nouvelles, Avshalom décida de renouer les contacts avec l'état-major britannique. Il partit donc à pied pour l'Égypte avec Joseph Lichansky, car les ports étaient gardés par les Turcs. Ils se déguisèrent en bédouins et arrivèrent à déjouer la surveillance des Turcs. Mais dans la région des Larich, ils furent attaqués par des pillards et Avshalom fut malheureusement tué. Joseph s'enfuit et arriva blessé à Port Saïd, où il apprit l'arrivée d'Aaron. Dès le 28 janvier 1917, depuis un navire de guerre britannique qui mouillait au large d'Atlit, Aaron passa alors des messages à Sarah, restée à Zikron Yaakov. Toute la responsabilité du réseau en territoire occupé par les Turcs retomba sur Sarah Aaronson. Elle fit preuve d'héroïsme, d'abnégation et de patriotisme, non seulement face aux ennemis ottomans, mais aussi face aux membres du Yishuv qui ne l'ont pas aidée face à cette difficulté matérielle et morale. Elle organisa alors le réseau depuis sa maison et chaque nuit sans lune, transmit à son tour des informations aux Anglais. Le réseau fut découvert d'une manière hasardeuse pendant la fête de Soukhot 1917. Un pigeon voyageur envoyé depuis la station d'expérimentation de Atlit et muni d'un message secret à l'attention des Britanniques fut intercepté par les Turcs qui cassèrent le code. La répression s'abattit alors sur les membres du Yishuv. Des militants du Nili furent arrêtés et grièvement maltraités. Le père et le petit frère de Sarah furent torturés devant elle. Elle endura 4 jours de torture sans révéler aucune information secrète. Avant d'être transférée à Damas pour enquêter, approfondie, sinon pour torture, elle avait demandé la permission de retourner chez elle à Zikron Yaakov pour changer ses vêtements tachés de sang. Craignant de ne pas résister aux tortures, elle réussit à se suicider avec un pistolet dissimulé sous une tuile dans sa salle de bain. Et c'était le 9 octobre 1917, 100 ans, jour pour jour. Dans sa dernière lettre, elle avait exprimé son espoir que ses activités à Nili rapprocheraient la réalisation d'une maison nationale pour les Juifs en Eretz Israël. Mais la vindicte religieuse l'a poursuivie. Sarah Aaronson s'était vue refuser un enterrement dans un cimetière juif en raison de son suicide mal interprété. Le Shulchan Aruch, la loi juive, stipule clairement que celui qui se suicide n'a droit à aucune cérémonie funéraire. Donc Sarah, donc morte à l'âge de 27 ans, fut à l'origine de la création d'un embryon de service de renseignement qui va préfigurer plus tard le réputé service secret du Mossad. Thank you. Et c'est donc avec ce joli morceau Bublitsch qui, avec Jöra Feinmann à la clarinette, que se termine cette émission découverte. J'espère qu'elle vous aura intéressé. En tout cas, moi, j'ai bien l'intention de vous retrouver la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée le dimanche de 18 à 19 heures. Et en ce qui concerne la suite des programmes sur les ondes de Radio Judaïka, vous retrouverez bien sûr les informations en direct de Tel Aviv et de Jérusalem, et cela dans quelques instants. Voilà, je vous souhaite bien sûr Shabbat Shalom, Agit Shabbos, et passez une très bonne semaine à l'écoute des programmes de Radio Judaïka.
Découverte, découverte, Aviva Belef en votre compagnie, avec rien que de bonnes nouvelles en provenant d'Israël et du monde juif, mais pas seulement de bonnes nouvelles, également de la bonne musique et des invités.